Bon, excellent. Monsieur l'évêque, en forme? Super. Bon, ben, on va commencer. Je pense que c'est intéressant. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Est-ce que tout le monde a reçu leurs notes? Okay, si je le rappelle, peut-être que je vais le répéter à la fin aussi. S'il y en a qui veulent recevoir les notes par courriel, certainement que c'est une excellente manière. Ça coûte moins cher que d'imprimer des copies pour tout le monde. Et vous pouvez les conserver aussi, évidemment, sur votre ordinateur par la suite. Donc, la semaine dernière, on a commencé notre cours sur le royaume de Dieu. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous vous souvenez du cours? Qu'est-ce que vous avez retenu de la semaine dernière? Vous savez, la semaine dernière, c'était vraiment la base, c'était notre introduction. Mais je pense encore aujourd'hui que c'est le cours le plus important de toute la série, ce premier cours-là, puisque justement, il jette les bases à notre compréhension du royaume. Donc, j'aimerais juste faire un petit test ce matin, une petite révision, en fait, et vérifier qu'est-ce que vous avez retenu du royaume. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Oui, Linda. Oui. OK, je dois répéter, OK, parce que vu que c'est enregistré, toi, a priori, ton approche, le royaume de Dieu, ça aurait été en Jésus-Christ. Oui. Mais disons que suite au premier cours, tu as saisi les trois aspects du royaume. OK, est-ce que tu serais capable de me résumer ces trois aspects-là du royaume? Le premier aspect du royaume de Dieu, c'est le règne, l'autorité. Je pense que c'est le mot-clé ici, l'autorité de Dieu. Oui, c'est certainement l'aspect le plus important du royaume de Dieu. Le dernier, c'est un lieu, un domaine à venir où on va pouvoir goûter aux bénédictions du royaume, oui, pleinement. Et c'est un domaine présent aussi dans lequel on fait déjà l'expérience des bénédictions à venir. Donc, on a vu dans la première leçon, premièrement, je crois que la doctrine du royaume, c'était compliqué. On a vu que c'était pas quelque chose qui était simple et que même lorsque on s'appuyait sur la parole de Dieu, on pouvait arriver avec des conclusions qui étaient différentes, dépendamment si on prenait certains versets isolés et qu'on prenait pas l'ensemble de l'enseignement. D'où l'importance, évidemment, de faire une étude qui est plus systématique de cette doctrine-là. Alors, on a vu donc que c'était complexe. On a vu qu'il y avait plusieurs interprétations qui existaient dans notre Église, dans le monde aussi en général. On a vu qu'il y avait des gens qui mettaient l'emphase sur l'aspect spirituel du royaume et qui négligeaient d'autres aspects. On a vu qu'il y avait des gens qui mettaient l'emphase sur l'aspect à venir du royaume, le royaume de Dieu qui s'en vient et oublient un petit peu l'aspect présent et spirituel. On a vu que pour d'autres personnes, le royaume de Dieu, c'était l'Église, c'était l'Église invisible qui se propage et donc le royaume de Dieu se propage. On a vu que bibliquement, il n'y a pas de fondement à cette idée-là, mais que c'est quand même une idée qui est existante. Pour d'autres encore, le royaume de Dieu, c'était seulement un modèle idéal. Donc, Jésus est venu nous montrer à nous aimer les uns les autres. Alors, si on s'aime les uns les autres, on va vivre selon le royaume de Dieu. Et donc, des valeurs sociales à ce moment-là. Par contre, effectivement, comme Linda l'a mentionné, ce qu'on a vu et ce qu'on doit retenir peut-être le plus, c'est que le plus souvent, le royaume de Dieu doit être compris comme le règne et l'autorité de Dieu et non comme un lieu et jamais comme étant l'Église. D'accord? Le royaume de Dieu a en fait trois sens différents et retenez-les. Dans certains passages, l'Écriture parle du royaume de Dieu comme étant le règne de Dieu. Dans certains passages, l'Écriture parle du royaume de Dieu comme un domaine où on peut entrer dès maintenant et faire dès maintenant l'expérience des bénédictions de son règne. Et d'autres passages encore vont nous parler du royaume de Dieu qui est futur, qui va venir avec le retour de Jésus-Christ, où on va entrer alors et on va faire l'expérience de la plénitude, si on veut, de son règne. La Bible conçoit toute l'histoire humaine comme reposant dans les mains de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est souverain et est au contrôle de l'univers. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation-là? D'accord. Par contre, est-ce qu'on peut dire que le royaume de Dieu est maintenant inauguré sur la terre? Dieu est souverain, Dieu règne éternellement, et pourtant sur la terre, c'est pas le royaume de Dieu encore. N'est-ce pas? On prie même que ton règne vienne. Hein? Seigneur, que ton règne vienne. Il n'est pas encore là, exactement, ou encore une fois dans sa plénitude. Au cœur de la théologie biblique, il y a une doctrine particulière qui s'appelle le retour de Christ. Christ est venu, il a exercé son ministère terrestre, il a manifesté qu'il était le Fils de Dieu, il est mort à la croix, il est ressuscité, et là, on attend son retour. Et c'est lorsque ce retour va survenir, au moment où Jésus va revenir, que là, le royaume de Dieu va pouvoir s'établir d'une manière complète. Je mentionne pour ceux qui écoutent, parce que le message est enregistré, donc ceux qui veulent aller sur le site Internet, qui n'étaient pas là encore la semaine dernière, mais ils vont tous y être, que lorsque je parle et que vous entendez une pause, c'est parce que je prends une gorgée de café. Je me suis écouté hier, puis j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Mais tu joues avec le son, jouez pas avec le son. N'ajustez pas votre appareil, ce n'est qu'une gorgée de café. Alors, donc on attend évidemment la réalisation finale du royaume de Dieu dans un domaine qui va être effectivement au-delà de l'histoire, donc après le temps. On doit par contre reconnaître que lorsque le Seigneur est venu dans la chair, lors de sa première venue, Dieu a déjà manifesté son règne, sa volonté et son royaume dans un sens qui est quand même très réel, même si c'est pas parfait, c'est pas complet. Le royaume de Dieu est quand même venu. Et c'est ce qui nous permet de vivre aujourd'hui la vie du royaume sur la terre. Okay? Le royaume de Dieu devient alors la réalisation de la volonté de Dieu et la jouissance des bienfaits qui l'accompagnent. Donc, lorsque moi, aujourd'hui, j'entre dans le royaume de Dieu, je dis aujourd'hui, parlons plutôt au moment de ma conversion, au moment de la nouvelle naissance, on entre dans le royaume de Dieu, on n'entre pas un matin, il faut que je rentre dans le royaume de Dieu. J'avais oublié d'entrer quand avant de partir de chez nous, je vais rentrer. Non, c'est pas ça. On entre dans le royaume de Dieu au moment de la nouvelle naissance. Et lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, on peut dès à présent goûter, si on veut, avoir cette jouissance, ces bienfaits qui accompagnent le royaume de Dieu. Paul le mentionnait, je l'ai mentionné la semaine dernière. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la paix, l'amour, la justice, je vois de mémoire, en Christ. Donc, lorsqu'on expérimente ces fruits de l'esprit-là, c'est, en quelque sorte, la récompense immédiate qu'on a d'être entré dans le royaume. Les gens qui ne sont pas dans le royaume ne peuvent pas goûter à ces bénédictions-là. Pas de la même façon, en tout cas. Donc, de même qu'il y a deux venues de Christ, l'une dans la chair, qu'on appelle évidemment l'incarnation, et l'autre dans la gloire, qu'on appelle la parousie ou le retour du Seigneur. Est-ce que la parousie, c'est quelque chose que c'est un mot qui vous est familier? La parousie. Quand on parle de la parousie, c'est le retour du Seigneur. Okay? C'est littéralement le grec parousia qui veut dire. C'est pas paraître, je me souviens plus, il faudrait que je revienne exactement sur la définition du terme, mais on parle de parousie lorsqu'on parle du retour du Seigneur. Donc, de même qu'il y a deux manifestations venues de Christ, il y a deux manifestations du royaume de Dieu. Une dans la puissance et dans la gloire quand le Christ va revenir, mais une qui est actuelle parce que le Fils de Dieu est déjà venu parmi les hommes. Dans cette leçon et dans la semaine prochaine, on va regarder ce que dit le Nouveau Testament concernant l'aspect futur du royaume. On va regarder plus tard l'aspect présent. Là, pour les deux prochaines semaines, on va se concentrer sur l'aspect futur du royaume. On va profiter pour approfondir certaines notions qui vont nous aider à comprendre aussi les aspects présents et futurs, donc, du royaume. Voilà. Maintenant, première définition ou première précision qu'on va devoir apporter, c'est de quoi on parle lorsqu'on parle de l'éternité. Est-ce qu'on parle de monde ou est-ce qu'on parle d'âge? Dans notre langage chrétien populaire, on parle souvent de la terre et du ciel pour parler de la vie présente et de la vie à venir. Maintenant, je vis sur la terre, quand je vais mourir, je vais être au ciel. Vrai? C'est notre langage populaire. En général, on fait une différence entre le temps et l'éternité. On vit aujourd'hui dans le temps, alors que dans l'éternité, on va vivre hors du temps. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation-là? Oui, en tout cas, vous savez pas où je m'en vais, hein? Vous avez des doutes. Je vous pose des questions. Vous dites, pas sûr de savoir c'est quoi qu'il veut que je dise. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans notre langage populaire, on serait d'accord avec ça. Ça semble être des énoncés familiers, des choses qui sont pas choquantes à l'oreille. Je vis sur la terre, je vais vivre au ciel. Je pense que c'est quand même biblique. La question du temps est peut-être un peu moins claire. Est-ce que maintenant je vis dans le temps? Est-ce que l'éternité, ça va être quelque chose hors du temps? Mais la Bible Et dans la Bible, ce concept de hors du temps n'existe pas réellement. OK? Donc, on va voir donc que ce concept n'existe pas. Donc, la vision biblique du monde présente plutôt un concept linéaire, n'est-ce pas? L'éternité n'est donc pas en dehors du temps, mais plutôt un temps qui n'a pas de fin. Je ne sais pas si vous êtes capable de saisir la différence. Depuis le début de la création, le temps a commencé à la création et il se poursuit jusqu'au retour de Christ, admettons. Et là, l'éternité commence, l'éternité qui n'est pas en dehors du temps, mais qui est un temps qui se poursuit, mais qui n'aura pas de fin. Hein? Au siècle des siècles, disent certaines versions. OK? Alors, justement, cette notion-là du temps qui est plutôt linéaire est cachée à cause de plusieurs versions bibliques qui traduisent mal le mot qui soutient ce concept-là. Et on va prendre quelques temps ce matin pour approfondir un petit peu cette notion-là. Si on veut comprendre comment le royaume de Dieu peut être à la fois présent et futur, il faut faire une distinction entre deux mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, deux mots qui ont des sens différents, mais qui sont souvent traduits de la même manière sans faire de distinction. Okay? Les deux mots dont je vous parle sont le mot « cosmos » et « aion ».« Cosmos », ça voudrait dire quoi ça? La Terre? L'univers? Oui, « cosmos ». Aeon, avez-vous une idée? Aeon, air, temps, époque. Donc, cosmos, en réalité, n'est pas un mot qui signifie terre ou univers, comme certains pourraient le croire. C'est un mot qui signifie plutôt ordonné, harmonieux, bien rangé. Connaissez-vous un mot, pensez à un mot qui pourrait avoir la même racine que cosmos? Comment? Cosmétique, exactement. Donc, lorsque les femmes se mettent du cosmétique dans la figure, ben, ils s'arrangent. Hein? Non, mais c'est ça. Ils se mettent de l'ordre. Parce qu'avant, c'était désordonné. On met du cosmétique, ça met de l'ordre. Moi, je comprends le concept parfaitement. Je ne sais pas si tout le monde le comprend. Mais n'empêche que c'est la racine du mot. Cosmos veut dire ordonné, rangé. Et le mot cosmétique vient de là pour qu'on puisse comprendre. On voit l'image tout de suite, n'est-ce pas? Dans son usage le plus courant en grec, cosmos, c'est le monde en tant que somme totale de tous les éléments d'un univers en bon ordre. Donc, lorsqu'on regarde le cosmos, on voit l'ordre dans lequel toutes ces choses-là avancent. Et donc, le grec voit l'univers et dit « Ah, ça, c'est le cosmos! » Non pas « c'est l'univers », mais c'est l'ordre. Regarde comment est-ce que tout est bien et tout est s'imbrique et tout fonctionne à merveille. Aeon, par contre, l'autre mot, est souvent mal traduit. C'est un mot qui signifie pas du tout ordre ou structure. C'est un mot qui signifie plutôt une période de temps. Et on devrait le traduire par âge ou une ère, hein, l'ère de glace. L'aeon de glace, si on utiliserait l'expression à ce moment-là. Donc, un âge. Et lorsqu'on fait une recherche donc du mot aeon dans le Nouveau Testament, on découvre que dans le plan rédempteur de Dieu, il existe non pas deux mondes, non pas deux cosmos, mais bien deux âges, deux aeons, l'âge présent et l'âge à venir. Est-ce que vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose? Deux anges dans le royaume, dans le plan de Dieu. Matthieu 12, 32 nous dit, « Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais s'il parle contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Ça, c'est la traduction Tob qui nous dit ça. Le Seigneur ne parle pas, pourtant, il ne parle pas de deux mondes, mais bien de deux anges. C'est le mot, c'est pas le mot cosmos qui est utilisé ici, c'est le mot aeon. Donc, le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Jamais. Est-ce que ça a une implication de monde ou ça a une implication de temps? De temps ne sera jamais pardonné, ni dans l'âge présent, ni dans l'âge à venir, ni dans le temps présent, ni dans le temps à venir. Jamais. C'est pas ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Oui, Bertrand. Oui. 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 Bon, alors déjà en partant, je vais redire la question encore une fois pour ceux qui l'écoutent. Quand avant d'être chrétien, quand tu avais 16-17 ans, tu as blasphémé le nom de Jésus-Christ, est-ce que c'est un péché qui sera jamais pardonné? Première des choses, le texte ici dit clairement que si tu as péché contre le Fils, c'est un péché qui peut être pardonné. Donc, si tu as blasphémé contre Jésus, ouf, t'en es sorti. Mais si tu avais blasphémé contre... pardon, prends peur, s'il vous plaît. OK? Le péché contre le Saint-Esprit, c'est pas le sujet de notre leçon ici. Je crois qu'on pourrait faire une journée complète, ou en fait une heure certainement, là, une session sur le péché contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est exactement? Juste peut-être remettre dans le contexte, et je fais l'aparté parce qu'on a quand même une petite leçon, donc on est capable de déborder un petit peu. Dans le contexte, n'est-ce pas, lorsque Jésus a parlé de du péché contre le Saint-Esprit dans Matthieu 12, les Juifs accusaient Jésus de chasser les démons par Satan, associant de ce fait l'œuvre du Saint-Esprit à Satan, en disant « c'est pas le Saint-Esprit qui fait ça, c'est Satan qui fait ça ». Et ce faisant, il rejetait aussi complètement le Messie et l'œuvre de Christ. Okay? Et ça, c'est un péché qui ne peut pas être pardonné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en définitive? Sérieusement, c'est quelque chose qui mériterait là, une leçon beaucoup plus complète. Mais disons que c'est pas l'idée d'un blasphème ou d'un péché ou d'avoir sacré ou des choses comme ça, là. C'est beaucoup plus d'avoir rejeté ce que le Saint-Esprit veut t'apporter. Le Saint-Esprit t'apporte quelque chose et tu le rejettes. Est-ce que c'est un péché qui peut être pardonné? Ben non. Tu vas te retrouver de l'autre côté puis tu vas avoir rejeté le Saint-Esprit. Ça peut pas être pardonné. Tu comprends-tu dans ce sens-là? Mais c'est une bonne question. Donc, il ne s'agit pas de ça ici. Et encore une fois, dans notre contexte, dans l'étude qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de déterminer ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. On est plutôt en train de déterminer est-ce qu'on parle de monde différent ou d'âge différent. Okay? Donc, on parle de temps ici. L'éternité n'est pas en dehors du temps, est un temps plutôt qui n'a pas de fin. On reste encore avec quelques exemples. Dans Éphésiens 1, 21, il mentionne ici... il parle de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Encore une fois, la version Tob ici. Même raisonnement, ce n'est pas le mot cosmos qui est là, c'est le mot aeon. Donc, une meilleure traduction serait non seulement dans cet âge, mais encore dans l'âge à venir. Il ne s'agit pas de deux mondes ou de deux ordres de société, mais de deux âges, de deux périodes de temps. Louis II traduit ici plus correctement lorsqu'il dit dans Matthieu 12, 32, « Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Alors, évidemment, on sait que c'est pas une question de siècle 100 ans, mais il y a cette notion d'âge, n'est-ce pas? « Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Le siècle à venir étant le temps où le royaume de Dieu va être instauré. Donne-moi deux petites secondes. OK. Encore une fois, on trouve une variante intéressante de cette expression-là dans Marc 10, 29, 30, qui est assez bien traduit. Jésus dit, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frère, sœur, mère et père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Là, voyez-vous, il fait une espèce d'hybride entre le temps-ci et le monde à venir. C'est vrai qu'il y a une connotation que le monde va être différent, que cet ordre ou que ce nouveau royaume de Dieu qu'on va vivre dans l'éternité va être quand même différent de ce qu'on est. Je veux dire, Paul mentionne clairement que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, c'est pas dans le corps que j'ai présentement que je vais hériter le royaume de Dieu. C'est dans un autre corps spirituel, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 15 le mentionne également. Donc, le traducteur ici, qui traduit par « monde », fait référence au fait que ce monde-là va être quand même différent, et en ça, il a raison. Sauf que lorsqu'on ne lit que « monde » et « monde », on perd de vue cet aspect, donc, que l'éternité n'est pas quelque chose en dehors du temps, mais est quelque chose dans le temps, fait un temps qui est sans fin. Ce second, dans le même texte, va traduire « siècle-ci, siècle à venir », donc va avoir une traduction peut-être qui respecte davantage là, l'idée du mot original. Donc, ce texte démontre bien qu'il s'agit de deux périodes de temps et non de deux mondes. Dans la première partie du verset, on trouve le mot « temps ». Alors ça, c'est intéressant. Laissez-moi vous revenir d'abord à ce texte-là que j'ai peut-être passé un petit peu trop vite. Ce second traduit « présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des mères, des sœurs, des enfants, etc. » Et dans le siècle à venir. Mais là, ici, c'est pas le même mot, voyez-vous. C'est pas le mot aeon qui est deux fois. Qu'ils ne reçoivent présentement dans ce siècle-ci, c'est le mot kairos qui est vraiment un mot de temps. Ou plutôt, donne-moi deux petites secondes. On retrouve le mot temps, kairos, et non âge. Donne-moi deux petites secondes encore une fois. Oui, parfait. Donc, dans ce texte-là, c'est pas âge présent et âge à venir. Il met en parallèle le temps présent et l'âge à venir. Encore une fois, au lieu de mettre monde, donc il met en parallèle deux temps. Et le premier mot ne peut pas être traduit par monde. Le premier mot est vraiment un mot de temps. OK, donc mettant en parallèle que l'âge à venir est une question de temps et non une question d'ordre ou de monde. OK. Donc, c'est une chose, donc, de comprendre et d'imaginer que le royaume de Dieu va être établi à un certain moment donné et on va entrer dans un temps qui va devenir éternel. Et c'est un autre âge ou un autre ère. Qu'est-ce qui sépare l'âge présent de l'âge à venir? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui sépare l'âge présent de l'âge à venir? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va entrer dans l'âge à venir et que maintenant on est dans un certain âge et qu'à un moment donné on va entrer dans l'âge à venir? Ah, le retour de Christ, on l'a mentionné au début, effectivement, c'est fondamental. Le retour de Jésus ou la parousie va être le déclencheur de l'âge à venir, n'est-ce pas? Matthieu 24, 3, les disciples demandent à Jésus, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Vous connaissez ce verset-là? Est-ce que c'est écrit « monde », vous pensez? Est-ce que c'est « cosmos », le mot qui est là? Non, c'est « âge ». Donc, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin de cet âge? Hein? Et le commencement de l'âge à venir. Alors, quand on lit le verset, on a l'impression que les disciples voulaient savoir quand aurait lieu la fin du monde, avec des cataclysmes et tout. C'est pas ça du tout. Ils voulaient savoir quand est-ce que le royaume était pour s'établir. Quand est-ce que cet âge va se terminer pour que le nouvel âge commence, n'est-ce pas? Jésus mentionne, sur la suite du discours, si on lit, Jésus nous indique que la fin va survenir lorsqu'il va revenir. Dans Luc 20, 34, on a un autre indice aussi, ou une autre condition nécessaire pour l'établissement du royaume, ou pour que l'âge à venir commence. Est-ce qu'il y en a qui pourraient avoir une idée là-dessus? Le retour de Christ, qu'est-ce qui va coïncider avec le retour de Christ? L'enlèvement de l'Église? Pas nécessairement. Ça, c'est une position, ça, une position eschatologique, l'enlèvement de l'Église. Est-ce que c'est avant le millénium? Est-ce que c'est après le millénium? Est-ce que c'est au milieu du millénium? On ne parle pas de l'enlèvement. On parle du... Pardon? La tribulation? Non, Armageddon, non. La résurrection, c'était plus simple que ça. Vous cherchez trop loin. OK? Donc, la résurrection, lorsque le Seigneur revient, les morts en Christ ressuscitent, n'est-ce pas? Et c'est ce que Luc 20, 34-36 nous indique, que la résurrection est aussi une condition nécessaire pour entrer dans l'âge à venir. En parlant de ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection des morts. Donc, c'est ce que Luc mentionne. Ainsi, cet âge-ci sera clos et l'âge à venir va être inauguré, non seulement par le retour de Christ, mais aussi par la résurrection d'entre les morts. Donc, si on essaie d'illustrer cette idée par un simple dessin qu'on pourrait appeler le conflit des âges. Et là, si j'avais un tableau, évidemment, je vous le mettrais au tableau, mais essayez de figurer. On aurait, par exemple, ici, où je vais commencer là, le début de la création. Le temps commence. Et là, à un certain point, il y a le retour de Christ et la résurrection. Et là, il y a un autre temps qui commence, c'est linéaire. Et l'autre temps se poursuit, donc, lui, dans l'éternité, sans fin. Le présent âge a eu un début avec la création. L'âge à venir, lui, n'aura pas de fin, il va être éternel. On peut donc parler de l'âge à venir comme étant l'éternité, ce qui veut dire un temps infini, et non pas quelque chose en dehors du temps. N'est-ce pas? C'est une notion qui peut sembler, des fois, peut-être plus ou moins importante, mais lorsqu'on veut comprendre comment va être le royaume de Dieu, on a parfois cette idée encore, peut-être dans le monde plus, dans l'Église, j'espère que vous avez plus cette idée-là, mais vous savez l'idée là, classique là, qu'on va passer l'éternité sur un nuage avec la joie de la harpe, là, c'est sûr que parmi les chrétiens, c'est pas une idée qui est très, très répandue, mais dans le monde, c'est encore répandu, et cette idée-là vient de cette mauvaise conception de ce qu'est l'éternité et de ce qu'est le royaume de Dieu. Donc, on veut définir, évidemment, ces choses-là pour qu'on puisse bien le comprendre. Pardon? Accompagné de fromage Philadelphia. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est dire comment cette idée est profonde, parce qu'il y a même de la publicité qui fait référence. Les gens disent « Ah, oui, oui! » Puis quand nous, les chrétiens, on annonce l'Évangile, des fois, on se fait narguer en disant « Ah, ben moi, passer l'éternité sur un nuage à jouer de la harpe, ça m'intéresse pas. Je vais peut-être en enfer avec mes chums. » Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, celle-là. C'est ça. Alors, c'est manifestement des gens qui n'ont pas saisi c'était quoi le royaume de Dieu. Hein? Puis ça va être quoi l'éternité? Qu'est-ce qui nous attend à ce moment-là? Donc, on part avec ce graphique ou cette idée que le temps est quelque chose de linéaire, et je veux tout de suite vous dire, vous mettre un peu dans le bain, que la semaine prochaine, on va modifier ce plan-là un petit peu. On va se rendre compte que c'est pas tout à fait comme ça, mais vu qu'on doit avancer, comprenons que la création a eu lieu, le temps a avancé, au retour du Seigneur à la résurrection, on entre dans le nouvel âge qui, lui, est un âge sans fin. D'accord? Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ces deux âges-là? On vit maintenant dans un temps et on va vivre dans un autre temps, dans un autre âge au niveau de l'éternité. Quelles sont les caractéristiques des deux âges? Qu'est-ce que la Bible enseigne concernant donc ces deux âges? Qu'est-ce qui les distingue à part le temps, à part le fait que c'est un temps qui a une fin puis c'est un temps qui va durer éternel? Qu'est-ce qui les distingue? Alors, je vous pose la question. L'âge actuel, par exemple, qu'est-ce qui caractérise notre âge actuel? Linda? OK, donc, on va juste essayer de rester court parce que je dois le répéter, puis je vais faire participer un petit peu tout le monde. Donc, présentement, on vit dans un âge où il y a de la souffrance, où il y a de la maladie. Parfait. C'est une caractéristique du monde présent. Autre chose. Pardon? L'autorité est contestée, ouais, c'est intéressant, mais pas avec l'autorité de Dieu. Hein? L'autorité, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu, il y avait dans le Journal de Montréal, il y avait des articles, deux articles assez intéressants cette semaine. Un de Martineau et l'autre, son nom m'échappe, Benoît quelque chose, qui parlait un petit peu de notre société québécoise. Hein? On crie là, au scandale avec l'histoire de la construction, puis de la collusion, puis de la corruption qu'il y a au niveau de notre gouvernement, mais il mentionnait qu'on devrait peut-être se regarder dans le miroir, hein? Parce qu'on est bien fort à crier au scandale, mais quand il y a le temps de faire notre rapport d'impôt, là, il mentionnait évidemment tu sais, comment est-ce que les gens fraudent, puis comment est-ce qu'ils vont engager quelqu'un à travailler au noir, ou ils vont payer cash pour pas avoir à payer la taxe, ou etc. Donc, c'est bien facile de condamner la corruption dans le monde dans le domaine de la construction, et certainement que c'est pas excusable, là, on s'entend là-dessus. Mais, je veux dire, si cette chose-là est si répandue, c'est probablement parce que dans nos propres vies, on est corrompu. Écoutez, c'était pratiquement un aveu de péché, là. C'était pratiquement une confession, là, de dire on est des pécheurs. C'était très intéressant, ces articles-là. Donc, oui, l'autorité est contestée, même aujourd'hui. On ne parle même plus de l'autorité de Dieu, même l'autorité humaine. Les gens, ils s'en foutent un petit peu. Ils vont faire ce qu'ils sont obligés quand ils sont vus, mais aussitôt qu'ils peuvent faire quelque chose en cachette, ils vont le faire. OK? Qu'est-ce qui caractérise l'âge présent dans lequel on vit? On l'a mentionné, juste pour vous donner une piste, là, évidemment, le royaume de Dieu n'est pas ici encore. Oui, François? On est dans la période où on veut faire le choix de comment on va passer. Je m'excuse, j'entends pas bien. De comment on va passer dans le prochain royaume. En fait, on est encore à une période où on peut faire le choix d'entrer dans le royaume ou de ne pas entrer dans le royaume. C'est ça, François? Oui, merci. OK, donc on est encore à une période où, évidemment, lorsque le royaume va être instauré, Dieu va régner d'une manière, je dirais pas physique, mais d'une manière comme évidente, et là, ça ne sera plus une question de choix, là, OK? Tout genou fléchira devant moi, dit le Seigneur. Ce ne sera plus une question de choix à ce moment-là. Aujourd'hui, on vit encore dans une époque, dans une ère où il y a le choix. Linda? As-tu lu les notes, toi? OK, c'est ça. On est dans, donc, c'est la dernière fois que tu peux parler aujourd'hui, là. C'est injuste. C'est injuste. Oui, on est dans l'ère du prince de ce monde. On va le définir peut-être un petit peu plus tard. Oui, Denis? T'as pas lu le... Non, vas-y. Ah. Sa femme a le livre dans les mains, mais il l'a pas lu encore. Vas-y. OK, mais on parle de ce monde présent, là. Qu'est-ce qui caractérise le monde présent? Est-ce que c'est la présence du Seigneur? OK, donc présentement, on vit par la foi, alors que dans l'éternité, est-ce qu'on va vivre encore par la foi? Mais pourtant, c'est écrit que trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. La foi demeure éternellement. Comment est-ce que la foi peut demeurer éternellement au moment? La foi, l'espérance, la charité. La foi, l'espérance et l'amour. Trois choses demeurent éternellement. Allez relire 1 Corinthiens. Ils m'ostinent! Ils sont là, ils m'ostinent! 1 Corinthiens 13. Non. Le plus grand, c'est l'amour. Mais maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Oui, tu voulais confirmer ma compréhension des Écritures, hein? Hein? Est-ce qu'il y en a juste pour la 1 Corinthiens 13? 13-13. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La connaissance va disparaître, la prophétie va être abolie, mais l'amour va durer toujours. Mais la foi, l'espérance et l'amour durent toujours. Et ça, c'est une autre étude, pratiquement. T'as pas besoin de... Ce qu'on voit encore, quelqu'un peut-il l'espérer? Bon, hey, on va refaire une étude là-dessus, OK, à un moment donné. Mais bref, il est vrai, Denis, juste pour reprendre un peu le fil de notre idée, que présentement, on marche par la foi, OK, manifestement, puisque Dieu, nous on le voit pas, OK. On a le Saint-Esprit, évidemment, qui nous guide, mais on voit pas Dieu, donc on doit marcher par la foi. Qu'est-ce qui caractérise encore l'âge actuel? Oui. Les guerres. Oui, absolument. Donc, la discorde, la haine. Tu me disais? Le besoin d'être pardonné. Oui, manifestement. OK. Oui, Gérard? Oui. On va revenir sur la question des trois choses demeurent, là. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Ah non, non, ce ne sera pas Eos, Eon, c'est sûr que non. Non, non. Ça serait... Non, c'est désormais, c'est une manière de dire que voici donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande, c'est l'amour. Hein? Alors, aimons-nous les uns les autres. OK, donc, qu'est-ce qui caractérise l'âge actuel? Galates 1:4 nous dit que le Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Donc, Galates 1:4 détermine le monde, le aeon dans lequel on vit présentement, comme étant un âge mauvais, un siècle mauvais. Il est dominé par le mal, la méchanceté et la révolte contre la volonté de Dieu. On a besoin d'être délivré du monde présent par le sacrifice de Jésus. Éphésiens 2, 1 à 2 nous dit, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, c'est un monde, pas un monde, un cosmos, mais bougez pas. Oui, c'est intéressant ici. On marchait autrefois selon le cours de ce monde. Okay, littéralement, on marchait autrefois selon le aeon de ce cosmos. OK? Voyez-vous la nuance? Donc, monde étant ici l'ordre dans lequel dans lequel cet âge est. N'est-ce pas? C'est sûr que le cosmos dans le nouveau monde, dans le royaume de Dieu, va peut-être être différent du cosmos actuel. L'ordre va être différent. Hein? Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça ne sera pas nécessairement le même cosmos, le même arrangement, le même ordre. Il n'y aura pas de soleil dans le nouveau monde. Hein? C'est Dieu qui va être la lumière. Vous vous souvenez de ces références-là? Donc, cosmos étant un monde, un ordre, on marchait autrefois selon l'âge de ce cosmos actuel, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, on voit que l'âge dans lequel on vit est marqué par l'influence de Satan. Et on note ici, évidemment, l'utilisation du mot « âge » et « univers » montrant que les mots ne sont pas nécessairement des synonymes, mais qui sont quand même liés. Matthieu 13, 22 nous dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde, et là encore une fois, c'est les soucis de cet âge, et non pas du cosmos, mais en qui les soucis de cet âge ou du siècle présent et les séductions des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Donc, l'âge dans lequel on vit est rempli de préoccupations et de séductions, n'est-ce pas? Des préoccupations et des séductions qui empêchent donc celui qui a entendu la parole de porter du fruit. Matthieu 10, plutôt Marc 10, 29, 30. Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté, on l'a déjà lu tantôt, à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, mère, père et enfant et terre, et ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons des frères, des sœurs, des mères et des enfants et des terres, avec des persécutions, ne reçoivent aussi la vie éternelle. » Donc, l'élément de ce verset-là qu'on veut retenir ici, c'est « avec des persécutions ». Lorsqu'on quitte tout pour l'Évangile, le Seigneur Jésus dit lui-même que on va recevoir au centuple ici-bas, mais avec des persécutions. Et donc, la raison pour laquelle on a des persécutions ici-bas, c'est que l'âge dans lequel on vit est hostile à l'Évangile. On ne vit pas dans un monde où... encore une fois, j'utilise le mot « monde », voyez-vous, mais pas dans le sens de cosmos. On ne vit pas dans une société, dans un air, dans un âge, où on annonce l'Évangile, puis « Ah, wow, c'est donc le fun! » Ça faisait longtemps que je voulais entendre quelque chose comme ça. Heureusement, il y a des gens que le Seigneur a préparés d'avance et qui reçoivent avec joie la parole de Dieu et qui portent du fruit, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, cette idée même d'amener le royaume de Dieu sur terre et d'annoncer l'Évangile à tout le monde et que tout le monde va se convertir, je veux dire, le Seigneur Jésus dit que non, cet âge-là est pas propice à ça du tout. On vit dans un monde qui est dominé par Satan, qui est sous l'influence du Satan, qui est hostile à l'Évangile. 2 Corinthiens 4, 3 et 4 nous dit « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux Évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, Satan est le Dieu de ce siècle, le Dieu de cet âge. Il aveugle l'intelligence. Dans le plan souverain de Dieu, beaucoup d'autorité et de pouvoir ont été accordés à Satan pour la durée de cet âge. Dieu lui a cédé des choses. Lorsque Satan tente Jésus dans le désert et qu'il lui dit « Vois-tu tous ces royaumes? Si tu te prosternes devant moi, je vais te les donner. » Parce qu'ils m'ont été donnés puis je peux les donner à qui je veux. Est-ce que Satan était en train de mentir? Non. Dieu a cédé pour un temps et non pas pour l'éternité, gloire à Dieu, juste pour un temps, à Satan, beaucoup d'autorité ici-bas. Mais ça va avoir une fin à un moment donné. Mais présentement, c'est ça le monde dans lequel on vit. C'est ça l'âge dans lequel on vit. C'est pas l'âge du royaume. Satan exerce une telle influence sur cet âge que Paul peut parler de lui comme étant le Dieu de ce siècle. Évidemment, il n'est pas en train de dire que Satan est Dieu, mais que Satan, c'est le Dieu de cet âge-là. Le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit est tellement corrompue et tellement sous l'influence de Satan que c'est Satan qui règne, entre guillemets. Et je fais les guillemets, mais je le dis pour ceux qui écoutent, évidemment. Donc, et on va y revenir sur cet aspect du royaume de Satan, n'est-ce pas? Juste pour vous laisser des petits hints sur ce qui s'en vient. Donc, d'où viennent le mal, la haine, la tromperie, les discordes, les conflits, le péché, le malheur, le chagrin, la souffrance dont on a parlé tantôt qui caractérise cet âge-là? D'où est-ce que tout ça vient? De Satan. OK? L'homme demeure responsable. Il est libre de ses choix. OK, on l'a mentionné. Mais parce qu'ils sont incrédules, Satan a aveuglé leur pensée. Hein, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, nous dit Romain, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes. Les gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Regarde, livre-la à Satan. C'est pour l'instant, là, c'est comme ça que ça va aller. Romains 11, 21-22. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà la racine du mal, c'est l'aveuglement, les ténèbres, l'incrédulité. L'aveuglement dans lequel notre air est plongé à cause de son incrédulité. Romains 1, 28. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Encore une fois, la principale caractéristique de l'âge de ce monde, ce sont les ténèbres. On n'est pas dans le royaume de lumière. On est dans un royaume de ténèbres présentement. Les gens sont dans les ténèbres, sont hostiles à l'Évangile. Le péché est là, le mal est présent. Ça, c'est ce qui caractérise l'ère dans laquelle on est présentement, l'âge dans lequel on est. Dieu merci, il va y avoir une fin à tout ça. Il est évident, d'après ces versets, que le royaume de Dieu n'appartient pas à cet âge, car Satan est appelé le Dieu de cet âge. Jésus lui-même, lorsqu'il parle à Pilate, dit quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas de cet âge. Parce que s'il avait été... Remarquez que je vous dis ça, il faudrait que je vérifie exactement c'est quoi le mot qui est là. Mais je crois que c'est âge, ici. Parce que si mon royaume était de ce monde, mon père m'enverrait des légions d'anges pour me sauver. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu est à venir. Il n'est pas présent. On peut goûter présentement des aspects du royaume, mais on goûte seulement des aspects du royaume. Le royaume de Dieu est à venir. Ce n'est pas ici-bas, c'est pas en annonçant l'Évangile qu'on va emmener le royaume de Dieu sur terre. Quoi qu'on est appelé à annoncer l'Évangile, ce n'est pas ça qui va amener le royaume de Dieu. On verra plus tard qu'est-ce qui va amener le royaume de Dieu sur terre. Pardon. Donc, Dieu demeure souverain, même si ce monde a été livré à Satan, même si c'est le règne de Satan, Dieu est souverain. Et Dieu ne laisse rien à la légère, Dieu ne laisse rien aller au hasard. Dieu contrôle toute chose. Ça fait partie de son plan qu'on vive dans cet âge-là. Et qu'on ait justement l'opportunité pour ses enfants de l'accepter et d'hériter le royaume de Dieu. C'est un test, on pourrait dire, notre vie ici-bas. Hein? Une idée que je lance comme ça au hasard. Donc, Dieu demeure souverain, mais pour bien comprendre c'est quoi le royaume de Dieu, il est essentiel de reconnaître que la Bible enseigne que cet âge est en révolte contre l'autorité de Dieu, que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu n'est pas ici-bas pour l'instant, d'une manière concrète ou en fait d'une manière parfaite, et que tout ça est pour l'avenir. Le royaume de Dieu appartient à l'âge de l'avenir. Qu'est-ce qui va caractériser l'âge de l'avenir? On a vu quelles étaient les caractéristiques de l'âge présent. Qu'est-ce qui va être les caractéristiques de l'âge à venir maintenant? Ça devrait être assez simple. pas de pleurs et de grincements dedans. Ça, c'est pour ceux qui vont aller. Il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies. OK. On a beaucoup de versets qui nous parlent de ça. Et si on compare, c'est comme carrément l'opposé du siècle présent. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui va caractériser l'âge à venir? Je veux que vous me donniez des idées. Dites-moi-le. Verbalisez-le. Il n'y aura plus de mal, plus de péché. Plus de mort. La mort elle-même va être détruite. L'ennemi ultime, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort, c'est votre ennemi actuellement. La création va être en harmonie avec l'être humain. Pas sûr à 100% de cette idée-là, mais bref, on sait que la création présentement est soumise à la vanité et qu'elle soupire. Elle va être délivrée de ça. L'agneau va être avec le lion, mais là encore là, on parle d'une prophétie dont on est. À ce point-ci, on n'est pas certain si c'est littéral ou si c'est pas littéral. Okay, je veux juste qu'on va cheminer ensemble. Okay, prenons pas les choses pour acquis. Allons-y tranquillement, mais ça dépend des positions. Mais on va voir quand même qu'il y a des indices intéressants là. Oui. En fait, je vais vous partager carrément ma position éventuellement. Mais on n'en est pas là. Hein? Ça va venir. Donc, l'âge à venir, c'est l'époque du royaume de Dieu. Donc, c'est en tant que manifestation parfaite du règne de Dieu, enfin que domine des bénédictions complètes de la rédemption. Et ce royaume-là, c'est notre espérance. Hein? Est-ce que, Paul le dit lui-même, si c'est dans cette vie seulement qu'on espère en Dieu, on est quoi? On est les plus malheureux de tous les hommes. Je veux dire, si tout ce que j'espère, c'est ici-bas, d'avoir une vie en santé, puis d'avoir une maison, puis d'avoir une famille, puis je suis donc béni, moi j'ai tout. Ouais, mais je vais mourir tout à l'heure, là. Si j'ai pas le royaume de Dieu, si j'ai pas l'éternité pour en jouir, je veux dire, je suis malheureux au bout. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Oui, mais c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Vraiment, c'est si on espère dans des vues humaines, si mon espérance est terrestre, je suis malheureux au bout, là. Comprends-tu? Mon espérance n'est pas terrestre, mon espérance, elle est céleste. Elle est éterne et céleste, pas sur un nuage. OK? Mon espérance à moi, en Christ, m'amène à la vie éternelle, effectivement. Donc, c'est pour ça que je suis pas malheureux. Mais si mon espérance était ici-bas seulement, on serait malheureux. Donc, notre espérance, c'est le royaume de Dieu à venir. OK? Pourtant, on est dans le royaume de Dieu. On va le voir aussi qu'on est présentement dans le royaume de Dieu. Mais mon espérance, c'est d'entrer dans l'éternité. C'est d'aller chercher l'héritage que Dieu a pour moi. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, en terminant? Premièrement, la Bible enseigne qu'on ne fera jamais l'expérience de la plénitude des bénédictions du royaume de Dieu pendant cet âge. OK? Quand même qu'on sera les gens les plus spirituels, et on est appelé à l'être, on va connaître, on va faire l'expérience des bénédictions de Dieu, mais jamais de manière complète. Le péché va toujours être dans ma vie. Je vais toujours être soumis à ce siècle. Mon corps va se dégrader. Je vais vieillir. Je vais mourir éventuellement. Je vais être malade. Je vais souffrir. Donc, c'est pas ici que je vais goûter à la plénitude des bénédictions du royaume. C'est pas pendant cet âge ici. Certains ont identifié l'espérance chrétienne à un monde sans guerre, un monde totalement soumis à Dieu grâce à la prédication de l'Évangile. Ces gens qui fondent leur espoir sur un royaume qui doit se manifester pendant cet âge sont sûrs d'être déçus. Donc, les post-millénaristes à l'époque qui ont fait tellement de bonnes choses pour notre société qu'on en bénéficie encore aujourd'hui, qui croyaient que à force de prêcher, on pourrait amener le royaume de Dieu ici-bas, ils sont sûrs d'être déçus. Parce que Jésus lui-même nous dit que ce monde, c'est pas son royaume. Il n'est pas ici-bas. C'est pas ici-bas qu'on va l'avoir. Le royaume parfait de Dieu appartient à l'âge à venir. On ne connaîtra jamais la plénitude des bénédictions tant que va durer cet âge mauvais dont on doit être sorti par la grâce de Dieu. Le monde ne se convertira pas avant la venue de Jésus-Christ de manière massive, comme certains l'ont pensé. Il ne faut donc pas être déçu des guerres et des bruits de guerre, du mal, de l'hostilité envers l'Évangile. Il ne faut pas être surpris de ça. Il ne faut pas être déçu. Il ne faut pas se dire, « Ah, Dieu n'agit pas, Dieu ne fait rien. » Non, non, Dieu fait tout ce qu'il y a à faire. C'est juste que ce n'est pas ici là, qu'on va goûter la plénitude du royaume de Dieu. Et on doit être conscient de ça. On doit continuer à lutter pour l'avancée du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas ici-bas que ça va arriver. Okay? Et ça, on doit le comprendre. Jésus lui-même le dit. Il va y avoir des guerres, des bruits de guerre. Ça, il n'est pas troublé. Il faut que ces choses-là arrivent. Cet ange est mauvais. Allez pas penser qu'on va réussir à transformer cette société, à transformer cet ange. Non, non. L'ange qui est ici doit prendre fin et l'ange à venir doit commencer. Et ça va arriver avec le retour de Christ et la résurrection. Quand le peuple de Dieu est appelé à traverser des grandes souffrances, des tribulations, il devrait se rappeler que Dieu ne l'a pas abandonné, mais que ses souffrances sont dues au fait qu'il n'appartient plus à cet âge et fait donc l'objet de son hostilité. Si vous êtes entré dans le royaume de Dieu spirituellement, vous n'appartenez plus à cet âge. Paul le dit, on a été transporté, on était sorti de ça, on était transporté dans le royaume de son amour. Et donc, c'est normal que le monde soit hostile envers nous. Jésus a dit, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Hein? Attendez-vous pas à ce que le monde vous aime, là, parce que vous êtes des chrétiens et que vous recherchez le royaume de Dieu. Le monde va vous haïr à cause de ça. Parce que le monde ici, là, l'âge dans lequel on vit est mauvais. Donc, soyez pas surpris de ça. De plus, le royaume de Dieu ne se réalisera pas pleinement avant la venue personnelle, donc, et victorieuse de Christ, où il va anéantir ses ennemis, et le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. Les hommes ne peuvent pas construire le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui va apporter le royaume de Dieu? Christ va apporter le royaume de Dieu. Il est en lui le royaume, c'est lui qui va l'apporter. Nous, on ne peut pas l'apporter. Le pouvoir de Satan et du mal ne pourront finalement être surmontés que par la puissante action du retour de Christ. C'est lorsque Christ va revenir qu'il va détruire par le souffle de son avènement Satan, l'envoyer la bête, le faux prophète, tout le kit, puis il va jeter ça dans les temps de feu éternel. Mais ce n'est pas tout de suite. C'est notre espérance. Ce jour vient, mais ce n'est pas plus tard. La semaine prochaine, on continue avec l'aspect du monde à venir, n'est-ce pas, du royaume à venir, et ainsi de suite donc pour les prochaines semaines. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci.